Le dimanche 27 juillet avait lieu au sanctuaire Notre-Dame de Poëlin à Arras-Marsous le pèlerinage diocésain à l'initiative de notre évêque Monseigneur Mika. Je vous propose aujourd'hui un retour sur cet événement avec une série de témoignages. Bonjour Christine.
Bonjour Anne-Rose.
Vous voilà arrivée devant la chapelle de Poëlin. Qu'est-ce qui vous a motivée pour venir participer à cette journée diocésaine ?
Alors, c'est Elisabeth qui m'a motivée, sœur Elisabeth, voilà, qui m'a motivée. Et en même temps, c'est participer au jubilé, être avec d'autres du diocèse, vivre quelque chose de fort dans le diocèse.
Vous êtes allée au précédent rendez-vous ?
Non, j'ai pas pu.
Voilà, donc là, c'est un peu une première.
C'est une première.
Est-ce que vous connaissez le sanctuaire de Poëlin ?
Non, je connais pas du tout.
Ah, alors, on essaiera de vous attraper à la sortie pour savoir à quel point vous avez été époustouflée par la chapelle. Bon pèlerinage, Christine.
Merci.
Bonjour, Père Dominique Aubian.
Bonjour, Anne-Rose.
Vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Poëlin, pour quelques semaines encore, en tous les cas. Et c'est vous qui avez orchestré, piloté, coordonné avec toute une équipe autour de vous ce rassemblement diocésain au sanctuaire Notre-Dame de Poëlin à Arras-Marsous. On est là dans le Val d'Azun, au fin fond du Val d'Azun, en ce dimanche 27 juillet. Ce sanctuaire Notre-Dame de Poëlin, il n'est pas forcément très connu dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes et pourtant c'est vraiment un lieu de pèlerinage, de prière, de dévotion mariale qui est ancien et qui a marqué des générations de Bigourdans. Est-ce que vous pouvez vraiment en quelques mots nous expliquer un petit peu l'histoire de ce sanctuaire ? Pourquoi il y a une chapelle ? Pourquoi il y a un sanctuaire ici ? Pourquoi il y a un sanctuaire au fin fond du Val d'Azun ?
Alors il paraît que vous voyez, il y avait des bergers du côté du cirque de Troumouse. Hein. On rapporte donc que ces deux bergers du cirque du Troumouge ont vu deux colombes dans la source de l'Aguila, au-dessus donc de la chapelle de Eas actuelle, très lumineuses, qui sont venues se désaltérer. Et quand elles se sont envolées de la source, une est venue se poser au niveau de du lieu où est maintenant la chapelle des As, et l'autre est venue se poser sur la montagne dite de Poëlin, où le sanctuaire a été. Je pense que ça a démarré sûrement par un oratoire, et là il y a eu une dévotion à la Vierge Marie qui a commencé. Donc,
à quelle époque ?
C'est la fin du Moyen Âge. Et voilà ce que l'on dit de l'histoire que l'on raconte. Et puis il y a une autre histoire qui est dite, c'est que un habitant de Darens, donc qui est en bas de Poëlin, a vu une lumière et montait donc sur la montagne, le mont, hein, c'est vraiment un mont, est arrivé sur le mont, a vu une statue de la Vierge. Il a voulu la descendre au village et puis finalement cette statue revenait sur le mont. Et donc du coup c'est là qu'a commencé aussi sûrement un oratoire et puis ensuite une dévotion à la Vierge Marie. Poëlin, pourquoi ? Parce que c'est le mont de la source. Là-haut il y avait une source et la chapelle a été donc construite sur le rocher. Et au sein même de la chapelle, le sol, hein, qui est une roche, eh bien, il y avait une source jusqu'à il y a quelques années, peut-être quelques décennies ou siècles. Voilà, ça a été bouché à un moment donné, mais voilà, l'eau coulait du sol de la chapelle.
Alors le rocher, la source, ce sont deux signaux qu'on retrouve, alors signaux c'est peut-être pas le bon terme, mais en tous les cas deux éléments qu'on retrouve par exemple à Lourdes, pas très loin, voilà, le rocher, oui. On pourrait parler aussi de la lumière, mais en tous les cas de la source, ça c'est vraiment en fait des éléments assez fondateurs de ce qu'est la piété populaire. J'insiste sur la piété populaire puisque c'est un peu le fil conducteur de ce rassemblement en ce 27 juillet.
Oui, on a souhaité aussi parler de la piété populaire et comment, à partir des bergers, d'un habitant, des fidèles, il y a une dévotion qui se met en route et il y a des lieux, hein, donc des sanctuaires qui commencent. Vous voyez, là, il n'y a pas eu d'apparition de la Sainte Vierge, mais il y a eu voilà, un début de dévotion à Marie, et sur le mont de Poëlin, et sur le lieu d'Eas, où ensuite il y aura la chapelle d'Eas, la chapelle Notre-Dame de Poëlin.
Voilà, donc c'est bien aussi de se rendre compte que nos sanctuaires mariaux ne sont pas isolés, qu'ils sont liés les uns aux autres. C'est aussi un peu ce qu'on expérimente là, en cette année, en allant à l'invitation de Mgr Mika, de sanctuaire en sanctuaire. Alors, on va pas décrire toute la chapelle et toute l'histoire de la chapelle, mais on peut quand même signifier une chose, c'est qu'il y a des reliques ici à Poëlin, dans cette chapelle de Poëlin. Ce sont les reliques de Sainte-Anne, notamment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le pèlerinage annuel a lieu le week-end le plus proche de la fête de Sainte-Anne.
Voilà, c'est donc pour la fête de Sainte-Anne que l'on se rassemble à la chapelle de Poëlin chaque année. Et il faut savoir que Marie Saint-Fray de Tarbes venait en pèlerinage à Sainte-Anne, à Poëlin, pour invoquer Sainte-Anne, et notamment lors de la fondation de sa première maison. Donc elle est montée à Sainte-Anne. Elle a demandé à Sainte-Anne de quoi pouvoir acheter, mettre en route une maison pour accueillir les femmes, parce que jusqu'alors, il n'y avait que une maison qui accueillait les hommes. Voilà. Et elle a été exaucée en revenant. C'est Sœur Martine qui m'a expliqué ça tout à l'heure, qui est sœur de Saint-Fray. En revenant, elle a rencontré le député Fould, à Tarbes, qui lui a dit « Mais d'accord, je vais m'occuper de cette maison, de vous fournir ce qu'il faut pour cette maison. »
Voilà, alors on ne peut que encourager vraiment les chrétiens, les fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes à venir vraiment prier en ce sanctuaire. C'est possible de venir prier, c'est un sanctuaire qui est ouvert, qui est ouvert aux visites et au temps de prière.
Oui, alors c'est un sanctuaire qui est ouvert... il y a des permanences d'ouverture où il y a un accueil, et puis ensuite il y a possibilité, évidemment, en nous contactant, de prévenir que vous êtes de passage dans le Val d'Azun et que vous souhaiteriez visiter la chapelle. Il y a un contact pour cela, vous appelez l'abbé Jean-Florent Nutens au 06 09 16 27 43. Et il faut voir avec lui à quel moment c'est possible pour que quelqu'un vienne soit ouvrir la chapelle, soit vous faire la visite.
Voilà, et vraiment, on invite vraiment les auditeurs de Radio Présence à venir faire cette découverte. Je rappelle le numéro de téléphone, le 06 09 16 27 43. C'est le téléphone de l'abbé Jean-Florent Nutens qui peut vous répondre si vous souhaitez venir découvrir, organiser un temps de prière, venir en pèlerinage ou simplement visiter cette chapelle du sanctuaire Notre-Dame de Poëlin. Un dernier mot, Père Dominique Aubian, et puis ensuite on donnera la parole à d'autres personnes, à la fois de la communauté paroissiale qui ont fait partie de l'équipe d'organisation de cette journée, et puis des pèlerins aussi. Peut-être un mot, vous, en tant que curé et que recteur de ce lieu, la joie probablement que vous avez à voir des gens du diocèse, un petit peu partout, il y a des gens de Bagnères, de Tarbes, d'Argelès qui sont là, la joie que vous avez à partager un peu l'histoire de Poëlin.
Eh bien oui, c'est une joie de pouvoir en quelque sorte révéler le sanctuaire au niveau du diocèse aujourd'hui, vous voyez. Je pense que ce sanctuaire était connu. Il a été tenu par les pères de garnison, etc. Mais aujourd'hui, voilà, ça permet de faire connaître le sanctuaire et une dévotion mariale à une Vierge qui est dans sa maternité divine et maternité de l'Église. Je crois que ça, c'est important. Comme j'ai pu l'évoquer, la Vierge de Garizon, de Pietat, c'est des Vierges de douleur, des Pietas, évidemment, voilà. Mais ici, c'est la Vierge de tendresse, la Vierge qui porte l'enfant Jésus et qui est... Voilà,
c'est la Vierge dans sa gloire, puisqu'il y a l'Assomption dans le retable. Gloire,
elle est couronnée par deux anges. Et au-dessus, vous avez l'Assomption. Donc il y a le couronnement de la Vierge Marie, l'Assomption de la Sainte Vierge. C'est une Vierge à l'enfant. Et puis, à sa droite, alors quand on est face à elle, il y a la chapelle de Sainte-Anne. Enfin, quand nous, on est dans le face au cœur, à gauche, vous avez la chapelle de Sainte-Anne où on voit la Vierge Marie enfant, Joachim, etc. Et puis de l'autre côté, il y a Saint-Joseph, son très chaste époux. Et je trouve que c'est très beau parce que il y a des valeurs, il y a une notion de famille à découvrir à travers la Vierge Marie qui est mère. Hein, et vous savez bien qu'une mère de famille, elle fait souvent l'unité de ses enfants. Quand il n'y a plus la mère, souvent, ben, les enfants sont un peu éparpillés. Et puis, je crois aussi que, elle est mère avant même que l'on puisse la choisir. Et ceux qui ont été blessés aussi, parce que ils n'ont pas de mère ou une mère qui n'a pas été aimante, eh bien, je crois que il faut qu'ils sachent et qu'ils découvrent que, auprès de Marie, ils peuvent aussi trouver de l'amour. L'amour qu'ils n'ont peut-être pas reçu lors de leur vie, de leur mère.
Merci beaucoup, Père Dominique Aubian. On vous souhaite une très belle journée de pèlerinage. Il fait beau ici dans le Val d'Azun, donc profitez-en bien avec tous ces diocésains qui sont venus prier avec vous, notre mère.
Merci Anne-Rose et puis merci à toute l'équipe qui a organisé cette journée. C'est beaucoup de travail et c'est l'occasion aussi de les remercier.
Merci. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors vous êtes l'une des chevilles ouvrières de cette journée de pèlerinage diocésain au sanctuaire de Poillain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle ?
Alors aujourd'hui, nous nous sommes engagés à vendre les médailles qui viennent d'être frappées pour l'occasion du pèlerinage. Donc il y a des médailles en métal argenté, en métal doré, des médailles en argent, des médailles qui sont également en argent plaqué or. Voilà, donc pour toutes les bourses. Et depuis ce matin, les gens qui passent s'arrêtent. C'est le moment de faire connaissance, de discuter. Et puis, pour pas mal de personnes, d'acheter un petit souvenir de la journée.
En somme, c'est vous qui les accueillez ici, puisque vous êtes vraiment juste à côté de la porte. Vous êtes le premier sourire qu'ils voient.
Voilà, dès qu'ils ont fini de monter, soit avec la navette, soit à pied, ils arrivent devant la porte. On est là pour les accueillir et ils peuvent ensuite participer aux activités qui sont proposées aujourd'hui.
Alors, on va vous libérer très rapidement parce que des personnes attendent justement pour acheter cette médaille. L'ambiance, comment vous sentez l'ambiance de ces gens qui arrivent là, peut-être pour certains pour la première fois ici à Poillain ?
Eh bien, les gens ont l'air heureux d'arriver, de passer une journée ensoleillée et de découvrir de nouvelles personnes.
Merci beaucoup Véronique, belle mission.
Merci, bonne journée à vous aussi.
Nous poursuivons notre reportage sur le pèlerinage diocésain qui s'est tenu le dimanche 27 juillet au sanctuaire Notre-Dame de Poillain. Parole maintenant à une pèlerine et puis nous terminerons avec Monsieur le maire d'Arins-Marsous. Alors Aliette, vous faites partie des pèlerins du diocèse de Tarbes et Lourdes qui sont venus ici pour vivre cette journée de pèlerinage au sanctuaire de Poillain. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir ?
Qu'est-ce qui m'a motivée ? Je trouve que cette initiative qui a été faite d'organiser plusieurs pèlerinages comme ça sur les différents lieux du diocèse de pèlerinage marial, j'ai trouvé ça une super idée. Et donc ce matin, je suis partie sur la Grande Marche pour arriver jusqu'ici.
7 kilomètres.
Voilà, il paraît.
Il y avait quelle ambiance ?
C'était tranquille.
Vous connaissiez d'autres personnes ?
J'en ai croisé d'autres que je connaissais déjà. Puis on a fait d'autres connaissances. Et ce qui a été assez surprenant, c'est qu'il y en avait qui venaient de Vendée, il y en avait qui venaient du Var. C'était très large.
Voilà. Ensuite, il y a eu cette fameuse table ronde, cet échange sur la piété populaire. C'était très intéressant de voir un petit peu comment on conçoit cette piété populaire. Qu'est-ce que vous en retenez de cet échange ?
Qu'en fait, il faut accepter chacun dans ses différences, que chacun a sa façon propre de vivre sa foi. Et en fait, c'est ce qui fait aussi la richesse de l'Église, mais tout en restant dans l'unité par rapport à l'Église.
Pour vous, ce sont des choses... On a parlé, par exemple, de la procession mariale. Alors, le père Michel Dauban, hein, le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, a participé à cette table ronde. Donc, on a beaucoup parlé du sanctuaire de Lourdes comme exemple, avec la procession mariale, l'eau, le rocher qu'on touche. Ce sont des choses qui sont importantes pour vous dans votre manière de vivre votre foi. Vous avez besoin de ces éléments d'une expérience concrète, presque sensorielle, j'allais dire.
Alors ben, pour moi, personnellement, je pense que c'est important justement par moment de montrer par des gestes en fait ce qui n'est pas visible et ce qu'on ne peut pas montrer autrement, même si on est assez limité dans les gestes qu'on peut poser. Et là, au début, vous parliez de tout ce qui était procession. Moi, je trouve ça important qu'aujourd'hui, justement, les chrétiens sortent des églises et rappellent en fait au monde que ce message-là existe et qu'il est pour eux aussi. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de voir que les processions eucharistiques redémarrent, que les processions mariales dans les villages redémarrent. Et pour moi, il faut qu'il y en ait toujours plus.
Voilà. Alors, ce sanctuaire Notre-Dame de Poix-l'Hinault, est-ce que vous le découvrez ou est-ce que vous le connaissiez déjà ?
Alors, j'avais déjà eu l'occasion d'y passer, mais je ne le connaissais pas plus que ça.
Alors, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs un petit peu ce qui est frappant quand on arrive ? En tous les cas, ce qui vous frappe, vous, dans cette chapelle ?
Ce qui me frappe, c'est le... Je trouve qu'elle est bien... qu'elle est bien conservée malgré tout. Et ce beau plafond bleu avec tout ce fond doré avec la Vierge au fond, c'est un lieu très paisible.
On ne soupçonne pas forcément qu'il y ait les reliques de Sainte-Anne ici.
Non, et j'ai été surprise qu'on ait des reliques de Sainte-Anne tout simplement. Parce que quand même, elle a été morte, je pense, depuis un certain temps à l'époque de Jésus. Donc, voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est surprenant.
Voilà, alors.
Grâce en cette année jubilaire, notamment pour Sainte-Anne, au sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray.
Voilà, c'est bien de faire le lien effectivement avec Sainte-Anne d'Auray. Allez, pour terminer, avec quoi vous repartirez de cette journée ? Quel est pour vous le message que vous allez remporter chez vous, dans votre paroisse ?
Avec le Seigneur, tout est grâce. La météo nous avait prévu un temps pourri. Et bien franchement, on a eu la météo idéale, pas trop chaud pendant la marche et le soleil qui est apparu après. Donc merci Seigneur.
Voilà, merci Seigneur et merci Aliette, à bientôt.
Au revoir.
Alors pour continuer cette belle journée de pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Poix-l'Hinault, nous sommes avec Jean-Pierre Cazot, le maire d'Arins-Marsouze. Bonjour monsieur le maire.
Oui, bonjour.
Alors monsieur le maire, il y a une question que les pèlerins ont posée en arrivant quand ils sont arrivés face à cette chapelle. C'est ce bâtiment, ce gros bâtiment qui semble abandonné et qui est collé à la chapelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors l'origine de ce bâtiment, c'était un couvent des sœurs Saint-Franciscaines qui soignaient les gazés de la guerre de 14-18. Donc c'était une association d'anciens combattants qui avait été créée après la guerre de 14-18, où ils soignaient les gazés ici pour essayer de les faire récupérer, pour les soigner entre guillemets. Une fois que qu'il n'y avait plus de malades, disons, issus de la guerre, et que la tuberculose s'est développée dans le pays, ça a été transformé en sanatorium, toujours avec cette congrégation de religieuses qui le géraient, toujours les anciens combattants qui étaient propriétaires du bâtiment et qui l'avaient amélioré, parce qu'au début il y avait un tout petit bâtiment à côté de la chapelle. Ça s'est agrandi petit à petit et donc c'est resté sanatorium des années 50, on va dire, jusqu'à les années 74. Et après ça a été transformé en IMP, IM Pro, c'est-à-dire handicapés physiques et mentaux, voilà, où il y avait 200 résidents, il y avait une ferme, parce que, alors, le Sana vivait en autarcie, il y avait une ferme en dessous qui amenait le lait, les jambons étaient salés dans le clocher de la chapelle, chapelle.
Oui.
C'est parti du, il y a encore les crochets, il y a encore tout dans le clocher, voilà. Donc c'était les bonnes sœurs qui s'occupaient de tout ça. Elles cuisinaient tous les cochons qui étaient nourris avec les déchets de trucs. Il y avait des vaches laitières, il y avait des veaux, tout ça. Ils vivaient un peu en autarcie, des champs où ils faisaient des légumes.
Ils vivaient en autarcie, mais on imagine que dans le village d'Arins, juste en bas, ça devait quand même être un lieu important quand même pour le village.
Très important. Alors c'était très important pour le village. D'abord, nous avions deux toubibs à Arins-Marsouze, qui étaient au Sana. Le directeur était docteur, dont tous les écoliers et tout ça, toutes les vaccinations, on venait à la queue leu ici. Après, les malades du Sana, on disait, c'était comme ça qu'ils les appelaient. Ils organisaient des pièces de théâtre, des cides. Ils développaient avec les gamins du village du théâtre de tout. Moi, j'avais eu fait de la cordonnerie. On avait fait.
Parce que vous êtes enfant du pays, vous avez connu ça.
Je suis né ici et tout. Donc, on venait ici et c'était notre. C'était la maison des jeunes.
C'était un lieu de vie pour le village.
C'était un lieu de vie pour le village. Il s'échappait quelquefois pour aller dans les bistrots, jouer aux cartes, tout ça.
Donc,
ça
vivait dans le village. Il vivait vraiment avec les habitants.
Il y avait une personne dans chaque famille du village, parce que ça demandait beaucoup d'emplois. Il y avait une personne qui travaillait ici de chaque famille.
Ah oui. Voilà.
Même c'était un enjeu électoral, c'était le maire, s'il embauchait, on votait pour lui.
Ah oui. Ça allait jusque-là. Alors ça a duré jusqu'à quand ça ?
Jusqu'à 1974. Après, bon, le centre d'handicapés physiques et mentaux, les bâtiments n'étaient plus dans les. Dans les normes, les anciens combattants, bon, faute de combattants, on va dire, il n'y a plus de. L'association est morte. Donc ces bâtiments ont été. Comme ils n'étaient plus dans les normes, on a conservé quand même l'APF. Ça a été. Les anciens combattants ont donné des bâtiments à l'APF,
l'association des paralysés de France.
Et la commune les a aidés à construire dans le village des unités pour conserver l'activité, on va dire, entre guillemets. L'activité dans le village, et ces bâtiments-ci reviennent au département puisque la commune n'avait pas les reins assez solides pour les prendre en charge.
Donc depuis, ces bâtiments sont un peu abandonnés.
C'est abandonné. Le souci que c'est des bâtiments très difficiles à réhabiliter. Je pense qu'un jour, pour protéger la chapelle et la remettre quand même, il y a tous ces arbres autour, il y a ces bâtiments, je pense qu'on va arriver vers de la démolition au moins partielle et essayer de réduire parce qu'il y a 4800 mètres carrés de plancher, donc de réduire la surface à réhabiliter au maximum pour que ça demande moins d'investissement.
Et pour que la chapelle puisse être un peu plus mise en valeur.
Les financeurs et tous les gens qu'on arrive à contacter disent il vaut mieux qu'on démarre. Du ras du sol, construire neuf, que réhabiliter ça coûte une fortune, et vu les temps qui courent, l'argent ne court pas les rues non plus. Quoi.
Alors donc ce bâtiment est vide et à l'abandon, on a bien compris, mais en tous les cas, dans le village, vous avez gardé un peu cette vocation de prendre soin des malades, puisque quand on arrive à Arras-Marsous, il y a ce grand bâtiment, le Masdazin, finalement, c'est l'héritage de ce sanatorium.
C'est l'héritage de ce sanatorium. Il y a toujours 200 emplois, 200 résidents. Ça a changé. Il y avait un petit centre de formation, cordonnerie, qui n'existe plus non plus. Bon, mais l'handicap a changé aussi. Les progrès de la médecine font que là, on a un quartier. C'est l'EHPAD des handicapés. Après, il y a le Cantou, c'est des traumatisés crâniens. Mais c'est souvent des accidents de la route et accidents de la vie. Qui sont là. Et puis après, des enfants aussi accidentés. On a un ESAT aussi, un ESAT qui fonctionne très bien, où on travaille avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des espaces verts qui nous aident à la commune. On leur a donné la gestion d'un petit bistrot. Enfin, ils l'appellent comme ça, mais c'est un petit truc sur la vallée du Teche. On travaille avec eux, quoi.
Même assez frappée de voir, je trouve ça assez formidable, dans ce village d'Arras-Marsous qui compte combien d'habitants ?
740 habitants.
740 habitants, de voir cette capacité à créer de l'emploi, mais aussi à créer de l'emploi qui prend soin des autres, qui prend soin des malades. Enfin, c'est assez extraordinaire cette place qui est faite aux maisons de soins dans un village aussi petit, finalement.
Oui, mais c'est l'héritage de. Ceci, ça continue et j'espère que ça continuera.
Alors vous, en tant que maire, pour vous, ça doit compter particulièrement ?
Alors, ça compte beaucoup. Et puis, bon, ça a été le choix des maires d'aider aussi l'APF, d'aider aussi les anciens combattants. C'est-à-dire, bon, on n'a jamais pris le virage du tourisme industriel. On a préféré créer de l'emploi pérenne. Et non pas, on disait toujours, une station de ski, c'est la précarité pour les jeunes.
C'est ça que vous appelez le tourisme industriel ?
Le tourisme industriel, la station de ski. On a eu la chance de ne pas avoir des sites qui pouvaient être, enfin, où les investisseurs ne se sont pas engagés. Et on est resté une vallée verte, et puis bon, on s'est orienté là-dessus. On a maintenu l'emploi qui existait, on l'a conforté tout le temps, quoi.
Alors aujourd'hui, au cœur de l'été, on voit vraiment la cohabitation entre un cœur de village, des habitants qui sont dynamiques. On devine aussi qu'il y a des habitants assez jeunes, parce que d'abord, j'ai vu en arrivant un panneau qu'il y aura bientôt l'ouverture d'une micro-crèche. Donc on voit que c'est un village qui vit. Et puis là, au cœur du mois de juillet, on voit aussi beaucoup de touristes. Alors il y a une cohabitation qui est quand même assez heureuse.
Alors c'est un tourisme, je le disais tout à l'heure, un tourisme vert, un tourisme familial. Et le tourisme a changé aussi, c'est-à-dire on a plus de gens qui viennent pour la tranquillité, pour la simplicité, pour ceux qu'ils ne trouvent pas chez eux, qui n'ont pas besoin d'avoir le portefeuille à la main tout le temps. Il y a l'agriculture qui s'est ouverte aussi avec des visites à la ferme, des choses toutes simples qui font que vivre ici. Les jeunes, bon, on a fait une petite base de loisirs avec des jeux qu'on ne trouve pas en ville, avec le souci de garder le caractère montagnard, le caractère de village. Et puis le principe, enfin, ça c'est mon idée, le premier touriste c'est le gamin du village.
Et ah, c'est beau ça.
Si le gamin de village se plaît, les parents restent. Et le touriste, si le gamin du village s'y plaît, le gamin du touriste va s'y plaire aussi.
Moi, si je puis me permettre, monsieur le maire, je crois que vous êtes maire, en tous les cas, engagé au conseil municipal depuis les années 80, c'est ça?
Depuis les années 80 au conseil municipal, adjoint, je ne sais plus depuis quand. Et maire, quand j'ai pu prendre la retraite, j'ai pris le poste de maire.
Voilà, donc vous êtes, pour reprendre vos mots, un gamin du village qui a été séduit.
Je suis né même dans le village.
Voilà. Vous n'imaginez pas en partie.
Ma mère n'a pas eu le temps d'aller à Lourdes, et je suis né à Reims. Voilà.
Merci beaucoup pour votre accueil, Jean-Pierre Cazot. Merci pour l'accueil de tous les pèlerins du diocèse qui sont venus aujourd'hui à Poillain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était un retour sur le pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de Poillain. Rendez-vous le samedi 6 septembre pour vivre une nouvelle étape de notre année jubilaire en diocèse. Nous nous retrouverons au sanctuaire Notre-Dame d'Eas. Toutes les informations et le programme de cet événement sont disponibles sur le site du diocèse catholique65.fr dans la rubrique Agenda ou bien sur l'application Au Clocher.